donc, sans plus tarder, je vous propose de commencer dès maintenant avec Eric de Brabander de l'Université de Leiden. Vous avez...
Alors, mon intervention sera axée principalement sur la question du commerce avec les territoires occupés. Je ne traiterai pas des questions de boycott qui sera discutée par mes collègues. Je précise d'emblée que c'est un papier que j'ai coécrit avec ma collègue Larissa van den Heer, qui est également présente ici. Donc, même si je parlerai souvent en moi et je, en fait, ce devrait être interprété comme un « nous » au lieu d'un « je ». Le point de départ de mon analyse sera en fait la décision de la Cour internationale de justice dans l'affaire du mur de 2004, qui a explicitement défini les obligations des États tiers. Il y a une partie, évidemment, des obligations de l'État d'Israël, mais il y a une grande partie qui traite des obligations des États tiers. En réalité, la Cour internationale de justice a défini trois obligations primaires pour les États tiers. La première étant une obligation explicite de non-reconnaissance de l'illégalité de la situation et notamment de l'annexion de facto de certaines parties du territoire palestinien. La deuxième obligation est l'obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. La troisième obligation étant l'obligation en vertu de l'article 1er des conventions de Genève qui oblige les États à faire respecter les conventions de Genève. Alors, le point de départ est non seulement l'avis, mais également une opinion individuelle du juge Koymans qui a dit « La Cour a clairement défini les obligations, mais l'application en pratique de ces obligations reste assez imprécise. » Et c'est notamment ce que je vais discuter dans la deuxième partie, c'est de savoir si les obligations des États en matière de droits de l'homme et les obligations des États en matière de droit pénal international peuvent concrétiser ces obligations ou peuvent apporter des éléments qui permettent aux États d'appliquer ces obligations. Alors la première partie, je vais brièvement discuter des trois obligations des États. Pour finir, pour conclure, en fait, qu'en réalité, même si les obligations existent, il existe très peu d'obligations concrètes pour les États de réglementer les activités commerciales des sociétés dans ces territoires. Premièrement, l'obligation de non reconnaître, une obligation assez relativement bien établie en droit international. Elle est principalement appliquée dans les cas d'annexion de territoire par l'emploi de la force armée. Elle a ici été étendue par la Cour au caractère des obligations erga omnes violées l'Israël. Elle implique en réalité que les États tiers sont dans une obligation de ne pas reconnaître explicitement l'annexion de facto de certaines parties du territoire palestinien occupé. Et on peut assez facilement étendre cette obligation aux colonies de peuplement, ce qui veut dire que les États tiers sont dans une obligation explicite de ne pas reconnaître non seulement l'annexion de facto de certaines parties du territoire, mais également les colonies de peuplement qui impliquent une annexion de facto de certaines parties du territoire palestinien occupé. Là aussi, le juge Koumane s'est dit très bien, on a une obligation qui est très claire, seulement il ne voit pas concrètement ce que les États doivent faire ou peuvent faire en pratique. Et je pense que son opinion est assez intéressante dans la mesure que les États n'ont relativement peu changé leurs attitudes envers le territoire palestinien occupé et envers l'annexion de facto du territoire occupé. Alors concrètement, quelles sont les obligations qui découlent de cette obligation primaire? Premièrement, l'obligation de ne pas reconnaître explicitement, mais également une obligation de ne pas reconnaître implicitement la souveraineté d'Israël sur les territoires palestiniens occupés qui sont annexés de facto par la construction du mur, mais également par les colonies de peuplement. Alors qu'est-ce que cela implique, une reconnaissance implicite? Et c'est là en fait où tout se complique. Les États en fait ont très peu de pratiques à ce sujet, mais on peut facilement dire que par exemple, les États sont dans une obligation de ne pas étendre l'application territoriale des traités avec Israël à ces portions du territoire palestinien occupé. Et on pense notamment à l'accord d'association Union européenne-Israël qui ne pourrait être étendu à ces parties du territoire palestinien occupé qui sont annexées de facto par la construction du mur et par les colonies de peuplement. Le problème, c'est qu'au-delà de ces principes généraux, il y a très peu de pratiques et on voit en effet difficilement quelles sont les obligations des États en cette matière. Et en tout état de cause, on ne voit pas dans quelle mesure les États auraient une obligation d'interdire le commerce de sociétés qui ont leur nationalité avec l'État d'Israël, non seulement dans le maintien et la construction de murs, mais également dans le maintien et la construction de colonies de peuplement. La deuxième obligation est une obligation qui découle de cette première obligation, qui est l'obligation de ne pas prêter aide ou assistance. Là également, on a une obligation qui est assez clairement définie. Elle implique notamment que les États ne peuvent pas aider l'État d'Israël à maintenir la construction, à maintenir le mur et aider à la construction du mur. Cela implique une aide positive, une aide à la construction, mais également elle s'adresse uniquement aux États, éventuellement aux sociétés dont l'État a le contrôle effectif. Elle ne s'étend pas, étant une obligation adressée aux États, aux sociétés commerciales directement. Là également, on voit qu'il y a une application en pratique, mais les États en général ne coopèrent pas à la construction de murs, il y a très peu de cas. Les problèmes se situent principalement aux sociétés commerciales qui participent à la construction du mur ou au maintien de cette situation. J'y reviendrai plus tard dans la discussion des obligations en droit de l'homme et en droit pénal international. La troisième obligation est l'obligation sous l'article 1er des conventions de Genève. Là également, le juge Koymans a clairement dit, c'est une obligation qui est clairement définie en droit international. Mais on ne voit pas concrètement ce que les États peuvent ou doivent faire en application de cette obligation. Alors, en réalité, les États ont le droit de prendre certaines mesures. Ils n'ont aucune obligation de prendre un certain type de mesures en application de l'article 1er commun aux quatre conventions de Genève. Et quand on regarde la pratique, on voit que les États se limitent essentiellement à des condamnation formelle l'organisation de conférences diplomatiques, mais ils ne prennent aucune action concrète positive en application de cette convention, de l'article 1er des quatre conventions de Genève. Par contre, il y a certains auteurs, dans un article défendu par notamment Laurence Boisson-Chazourne et Luigi Conarelli dans la revue internationale de la Croix-Rouge, qui disent que ça permet seulement aux États de prendre certaines mesures. Et ils disent notamment, cela permettrait aux États de poursuivre certains individus, éventuellement des sociétés commerciales, mais j'y reviendrai, selon l'application de la compétence universelle. Mais à nouveau, je précise qu'il s'agit là de possibilités de prendre des mesures, mais aucune obligation précise de prendre des mesures concrètes. Cela m'amène à la deuxième partie de ma présentation, c'est à savoir si les obligations des États en matière de droits de l'homme ou en droit international pénal peuvent concrétiser ces trois obligations, ou peuvent apporter un contenu à ces trois obligations qui sont acceptées en principe, mais dont on voit mal en effet en réalité ce qu'ils peuvent impliquer pour les États. Alors, au niveau des droits de l'homme, premièrement, il est clair qu'à ce stade, en droit international, les sociétés n'ont aucune obligation directe en droit de l'homme au niveau international. Les droits de l'homme en droit international sont essentiellement des obligations étatiques qui ont l'obligation de respecter les droits de l'homme, mais aussi d'assurer le respect des droits de l'homme par les individus et les sociétés qui sont notamment ceux qui ont leur nationalité. Mais les sociétés commerciales n'ont pas d'obligation directe en droit international. Les conventions internationales ne s'appliquent pas directement aux sociétés. Alors, les États, que peuvent-ils faire ? Les États ont éventuellement toujours la possibilité de poursuivre les sociétés commerciales qui commettent des infractions de droits de l'homme. Ici, je parle en droit de l'homme général et pas des droits de l'homme qui sont constitutifs de crimes internationaux, auxquels je reviendrai dans la deuxième partie de ma deuxième partie. Concrètement, les États peuvent-ils poursuivre les sociétés commerciales ? Oui, mais pas en fonction du droit international, parce que, comme je viens de l'expliquer, les sociétés commerciales n'ont pas d'obligation directe en droit international de ne pas commettre de violations de droits de l'homme. Comment peuvent-ils opérer ? Ils peuvent éventuellement prévoir que leurs juges, leurs tribunaux, ont une compétence pour connaître de telles violations. Mais il faut une provision explicite dans la législation nationale de l'État pour la compétence des tribunaux d'un État. Mais en ce qui concerne les violation, il faut également avoir une provision qui prévoit que les sociétés commerciales ont une obligation de respecter les droits de l'homme de manière extraterritoriale. Donc il faut en fait une double législation qui prévoit non seulement la compétence des tribunaux, mais également une obligation primaire pour les sociétés commerciales de respecter les droits de l'homme. Et quand on voit la pratique, on se réalise que les États sont très peu enclins à prévoir de telles provisions, sauf dans les cas de crimes internationaux, et c'est pour ça que je reviendrai dans la deuxième partie de mon exposé. Concrètement, les États ont à nouveau des possibilités, ils n'ont pas d'obligation réelle de le faire, Et la pratique démontre en outre que les États sont, ou très peu d'États en tout cas, sont prêts à inclure de telles obligations dans leur législation nationale. Ce qui m'emmène au deuxième volet de ma deuxième partie, notamment la question des obligations en droit pénal international. Et ici, en fait, on verra que les arguments sont assez similaires aux arguments que j'ai développés sur la question des droits de l'homme. Premièrement, les sociétés commerciales n'ont à ce stade pas la possibilité, en droit international, de commettre des crimes internationaux. Premièrement, le statut de Rome ne prévoit pas de responsabilité pénale pour les sociétés internationales, transnationales, qui ont des activités transnationales. Deuxièmement, il y a une affaire récente dans une cour d'appel des États-Unis du Second Circuit, je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français, dans l'affaire Kiobel, qui a clairement établi que c'est une affaire qui a été qui est passée devant la cour d'appel des États-Unis sous l'application de l'Alien Tort Claims Act, qui permet aux tribunaux américains de connaître de violations de droit international commis par des étrangers à l'encontre d'autres étrangers, sociétés, individus. Et la Cour a, dans cette affaire Kiobel, clairement dit, à ce stade, le droit international ne permet pas de poursuivre des sociétés commerciales pour des infractions de droit international. Et la Cour d'appel prend une vision assez restrictive du droit coutumier et dit que jusqu'à ce que les États n'aient pas clairement établi dans les textes que les sociétés commerciales peuvent commettre des crimes internationaux, il n'y a pas de responsabilité pénale des sociétés commerciales, il n'y a pas de responsabilité en droit de l'homme des sociétés commerciales. Alors, est-ce que cela veut dire que le droit pénal international n'a aucun rôle à jouer ? Non. Nous pensons que le droit pénal international a un rôle potentiel à jouer, mais à nouveau, il est assez limité et il repose essentiellement sur la volonté des États de mettre en œuvre certaines dispositions du droit pénal international dans leur législation nationale. Trois questions sont pertinentes ici. La première question étant de savoir si les États ont un devoir de poursuivre les sociétés commerciales qui ont participé aux crimes internationaux. Alors, il y a une obligation clairement établie de poursuivre les auteurs de crimes internationaux. Cela n'implique pas pour autant qu'il faut poursuivre tous les auteurs associés à ces crimes internationaux. Et ici, je reviens faire ma proposition que je viens de développer, à savoir que les sociétés internationales n'ont à ce stade pas de responsabilité pénale internationale, ce qui complique évidemment pour les États de poursuivre ces sociétés au niveau national pour des violations de droit international qui n'ont pas lieu. Deuxième question, alors le droit international pénal peut-il fournir ou permettre aux États de réglementer les activités des sociétés commerciales au niveau du droit pénal? Oui, mais à nouveau, il faut que les États prévoient dans leur législation nationale une provision qui permet, par exemple via la compétence universelle, de connaître de ces crimes. Certains États l'ont fait, notamment les Pays-Bas ont inclus dans leur législation nationale une provision qui permet aux tribunaux des Pays-Bas de poursuivre des sociétés internationales pour des crimes de droit international. Première condition, il faut donc une provision explicite dans la législation nationale. Deuxièmement, les principes généraux de droit pénal national restent d'application, ce qui veut dire que les sociétés commerciales ne peuvent être poursuivies dans les États que dans la mesure où ces États prévoient également la responsabilité pénale des sociétés civiles, des sociétés commerciales, donc des personnes morales. Ce qui est le cas aux Pays-Bas, ce qui permet notamment aux Pays-Bas d'exercer une compétence pour des infractions commises par des sociétés internationales à l'étranger. Donc en fait, on réalise deux conditions, à nouveau une provision de compétence et une provision qui permet de poursuivre les sociétés nationales en droit pénal national. Les Pays-Bas ne sont pas le seul État à l'avoir fait. Il y a plusieurs États qui ont également une responsabilité pénale des personnes morales. La Belgique a également, dans une manière plus limitée, la responsabilité pénale des sociétés commerciales. D'autres États l'ont fait, mais la majorité d'États n'ont pas de responsabilité pénale pour les personnes morales. Abstraction faite de la majorité des pays issus du common law, qui sont plus familiers avec cette notion de responsabilité pénale des sociétés commerciales. Troisième point, dans quelle mesure l'avis de la Cour internationale de justice peut-il aider au développement du droit pénal à ce stade ? Alors, premièrement, il peut encourager certaines initiatives de poursuite. Et je me réfère également à une affaire aux Pays-Bas où une ONG, Al-Haq, a décidé de déposer une plainte contre une société qui est établie aux Pays-Bas, qui s'appelle Riwal, qui a notamment fourni des grues et des plateformes aériennes qui aident à la construction du mur dans les territoires palestiniens occupés. À nouveau, ceci est possible aux Pays-Bas parce qu'il y a une législation nationale qui permet une telle poursuite. Mais l'avantage de l'avis consultatif de la Cour internationale, et je terminerai sur cette idée, permet de fournir des preuves assez relativement bien établies aux juges et aux procureurs nationaux. Il permet également aux sociétés, notamment Riwal dans ce cas, de ne pas pouvoir se cacher derrière la non-connaissance des règles applicables compte tenu de la publicité donnée à l'avis de la Cour. Concrètement, conclusion, plusieurs obligations existent clairement pour les États, mais aucune obligation oblige véritablement les États à prendre des mesures positives. Elles permettent souvent aux États de prendre des mesures et à nouveau, certains États seulement, ont adopté la législation nationale à cet effet. En conclusion, le droit international général n'a pas d'obligation concrète. Le droit pénal international peut permettre certaines poursuites pour des violations de crimes internationaux, mais à nouveau, je pense que les États sont relativement libres de choisir si oui ou non ils prévoient des législations à cet effet. Je vous remercie.
Je pense que certaines des trois questions qui ont été évoquées seront reprises, notamment sur la responsabilité des entreprises privées.